Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1. Et aujourd'hui Mélanie, qu'est-ce qu'on a concocté de bon pour le bien-être de nos auditeurs?
Alors, je commence par le programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1. On les retrouvera à 11h45. Alors aujourd'hui, dans le duo, il y aura Édouard Dutour du magazine Elle. Il souhaite nous présenter quelques applis très utiles puisqu'elles peuvent nous aider à prendre soin de notre santé sexuelle. Et puis, on terminera cette séquence avec la chronique de la coach Alexia Cornu. Alors avec elle, on va s'intéresser à un sujet un peu tabou. Mais comme ici, il n'y en a aucun, eh bien, on va faire le point sur le problème du prolapsus, de la descente d'organes qui peut tous nous toucher, notamment en prenant de l'âge. Alors pour éviter ça, l'une des clés, c'est un périnée bien armé. Et ça tombe bien, Alexia nous expliquera comment nous y prendre.
Mais avant cela, on va commencer l'émission avec notre bonne humeur habituelle, avec un sujet qui s'y prête peut-être encore plus que d'habitude ce matin, car on va consacrer notre magazine au bienfait du rire, comment employer l'humour en toutes circonstances, parce que oui, rire de notre naissance à la fin de notre vie, c'est un des piliers pour être aussi bien dans notre corps que dans notre tête. Vous l'avez compris, l'humour sera le fil rouge de Bienfait pour vous aujourd'hui, et on débute justement avec un homme qui n'en manque pas d'humour. Tout de suite, c'est le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. Donc effectivement, l'humour. L'humour, c'est comme les dents. Plus on en a, plus on sourit dans la vie. À l'inverse, moins on en a, plus ça fait marrer les autres. On peut rire jaune, on peut maîtriser l'humour noir. Mais l'humour n'a pas de couleur, n'a pas de frontières, n'a pas d'âge. D'ailleurs, quand est-ce qu'a été inventé l'humour? J'ai mené l'enquête. Ça date pas d'hier. C'est vrai que je me suis posé la question. Le premier qui a eu un fou rire, les autres, ils ont dû halluciner autour. Ils ont dû dire, mais il a des convulsions, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai dit une phrase, le gars s'est tordu de rire, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pas de rire, du coup, de je sais pas quoi. Et le rire a été inventé comme ça. Alors, la première blague, elle remonte à la préhistoire. Ouais. Je vais pas vous la raconter parce qu'elle est vraiment horrible. Il y avait des dessins, c'était un peu scatot, tout horrible, mais ouais, ça a toujours existé. Ensuite, ça s'est structuré au 4e siècle à Athènes. Il y a eu le club des 60, c'était des personnes qui se réunissaient, qui se raconter l'histoire, ils disaient oh super, c'est un peu le Jamel Comedy Club mais de l'époque.
Comment on riait en l'Antiquité?
Bah parce que je l'ai fait en grec là, en français c'était pas assez, voilà, une nuance. Et puis à la même époque, il y a eu les rois qui ont commencé à vouloir distraire un peu la cour parce qu'il n'y avait pas la télé, déjà parce qu'il n'y avait pas de prise à l'époque et puis Michel Drucker n'était pas né, mais à l'époque du coup il y avait des fous, et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils prenaient des vrais fous. Au tout début à la cour du roi, on prenait vraiment une personne limitée intellectuellement, on va dire. Ouais. Et on lui faisait faire des trucs, on se disait, oh, c'est génial, il est con comme tout. Et ça faisait marrer tout le monde. Et puis après, c'est François Ier, le premier, qui l'a invité à sa table, qui s'est dit, on va faire un bouffon. C'est pas un fou, ce sera un bouffon. Il n'est pas fou, il va jouer le fou. Ça va être super. Et là, c'est devenu des stars absolues. Si bien qu'il y en a eu un qui était vraiment sa star. Elle était là, toute la cour adorait. Ouais, il faisait des spectacles. Et puis un jour, il a trop pris la confiance. Il s'appelait Triboulet. Il a vanné la maîtresse François Ier. Il a été condamné à mort. Tout le monde dit, non, il est marrant. Ils ont dit, bon, au moins, il a été chassé, donc il est resté en vie. Bon, il ne l'est plus maintenant parce que c'était à l'époque. Donc, moralité, on peut rire de tout, mais pas avec François Ier. C'est le seul truc. Alors, évidemment, selon les cultures, les sociétés, on a aussi des tabous. On se dit, voilà, bah, c'est chaud. Et en France, notamment, on a le tabou de la mort. On se dit, ouais, même si on a tous très envie de rire à un enterrement, c'est quand même chaud. Et il y a le temps. C'est-à-dire qu'on peut faire une vanne sur Charles de Gaulle. On se dit, ouais, il est mort il y a longtemps. Tina Turner, je vais éviter en ce qui concerne maintenant.
C'est pas le bonjour.
Voilà, on se dit, c'est pas le bonjour. Alors, bah, bizarrement, j'ai envie de briser ça et de vous proposer avant de partir mon top 3 des gens qui sont morts. Donc c'est triste, mais qui sont morts de manière tellement drôle que.
Ah, j'aime bien ça.
Et puis, je rajouterai un petit on s'en fout, on les connaissait pas. Allez, numéro 3.
Numéro 3.
Le numéro 3, il est assez connu, c'est un Américain. Il voulait faire une démonstration parce qu'il vendait des plexis, des fenêtres hyper solides. Il était au 17e étage. Il a dit, ça, c'est les meilleures baies vitrées du monde. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous le prouve? Il dit, ben, moi, regardez, je suis le patron de la boîte. Je crois que c'était 75 kilos. Il a dit mot pour mot, je vais vous prouver la solidité de mon produit. Et regardez, et il s'est jeté vers la baie vitrée.
Et
qui n'était pas si solide que ça. Donc voilà. Numéro 2.
Numéro 2,
elle me plaît beaucoup parce qu'il y avait quand même du vice dedans. C'est un gars qui avait commandé et envoyé un colis piégé à un ennemi. Il voulait que ça explose chez l'autre. Ouais. Et bon, bah, le karma ou je sais pas quoi, il s'est trompé d'adresse. Du coup, la poste a bien fait son boulot. Retour chez l'expéditeur.
Oh.
Et ça a explosé chez lui. Ça, c'est pas mal.
Ouais, pas
et
mal.
Là, on se dit, c'est le meilleur au monde. Non, il y a le numéro 1.
Ah. Numéro 1.
Numéro 1, c'est un gars qui a un loisir déjà un peu dangereux. Il est fabricant de dynamite.
Ouais.
Il adore faire de la dynamite. Alors, il veut de mal à personne. Il veut tuer personne. Il veut faire exploser des choses. C'est sa passion.
Okay.
Et donc, un jour, il crée vraiment la dynamite la plus puissante. Et il se dit, tiens, je vais le faire. Donc, il a un tube de dynamite qui fait à peu près cette taille-là. Comme les bâtons, vous savez, au
40
relais.
40 cm, quoi.
Ça, si c'est.
Non, je sais pas. Je suis nul, hein.
Voilà, chacun. Si vous êtes nul, hein. Bon, c'est pas grave. On a à peu près l'idée. Voilà.
Okay.
Donc, ça ça tient dans la main. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tiens, je vais le lancer, je vais faire exploser. Donc, il a allumé comme un pétard la mèche. Il a fait ça. Sauf qu'il avait un chien hyper bien dressé qui est allé chercher. Et qu'est-ce qu'il a fait, le chien?
Il
l'a ramené à son maître et il l'a posé à ses pieds. Et le chien est reparti. Donc, le chien va bien. Et puis, le maître...
Moins bien.
Moins bien. Ah, voilà. Ouais. Vous voyez, on peut rire de la mort.
C'est vrai. Merci beaucoup, Clément Lanoux. Allez, maintenant, on va donner la parole à nos invités, celles qui vont nous aider à cultiver l'humour dans notre quotidien. Je commence avec vous, Jessica Zimmermann. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, créatrice du podcast Serial Mother et autrice de 30 livres, dont le plus récent sur l'amitié féminine, À nos amis, qui est paru chez Charleston. Avec nous également ce matin, il y a Julie Mamoumani. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes également journaliste, productrice et créatrice de la page Instagram Mamouze. Alors toutes les deux, vous êtes les co-autrices du livre Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, Les secrets de l'humour, et c'est paru chez Le Duc. Alors première question, on va parler aujourd'hui donc de la place de l'humour dans nos vies. Est-ce qu'on pourrait vivre sans humour? Vous deux, j'ai l'impression que c'est pas le cas, sinon vous auriez pas écrit ce bouquin. Mais c'est faisable, vous pensez, on risque quoi, Jessica?
On risque la mort. Non, mais nous demander ça, c'est un petit peu comme demander un parachute de sauter sans parachute. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas envisager une vie sans rire.
Non, oui, c'est comme Tina Turner sans ses jambes.
Exactement.
Injouable, voilà. Pour nous. Non, injouable. Comme vous l'avez si bien dit, nous, on cultive ça au quotidien, à tous les instants de la journée. C'est essentiel, quoi.
Même aux instants les moins drôles. Je veux dire, aux instants où on retrouve nos enfants. Aux instants...
non, ça, c'est pas drôle.
C'est Jess, la spécialiste.
C'est vrai, mais toute la journée, c'est pas drôle. Hein. Toute la vie, c'est pas drôle. Alors, est-ce que cet humour, vous le pratiquez, y compris dans le moment où ça craint? Jessica?
Oui, alors y a des degrés quand même dans l'horreur. Donc, avoir des enfants et rentrer chez soi, ça peut donner mal à la tête. Mais effectivement, il faut utiliser l'humour parce que on croit, Julie et moi, que l'humour, ça s'apprend. Mm-hmm. On peut transmettre le second degré, le recul sur soi et l'humour à ses enfants. Et c'est super important.
Il faut commencer tôt, non?
Il faut commencer tôt. Alors Julie va peut-être vous l'expliquer, mais il se trouve que c'est pas génétique et qu'on a dans notre livre interviewé
un super pédopsie
et un super médecin de génétique, etc. Parce qu'on se demandait si l'humour, voilà, est-ce qu'il y avait un gène de l'humour? Alors
non, il faut lire le bouquin, mais non, je dirais en quelque sorte, heureusement que c'est pas génétique, parce que sinon ce serait une catastrophe, ou heureusement que c'est pas que lié à nos parents ou à notre environnement. Voilà, le pédopsie est venu nous expliquer que ça s'apprenait, et ça c'est quand même la meilleure des nouvelles, je dirais, parce que le rire n'est...
Il y a de l'espoir surtout aussi, c'est pour ça, les enfants qui font la gueule.
Voilà, et un enfant con peut devenir un adulte drôle.
Oui, et l'inverse d'ailleurs aussi, un enfant drôle peut devenir un adulte con.
Il y a de l'espoir. Julie, vous dites aussi dans le bouquin que vous êtes une militante du rire, ça veut dire que rire, en tout cas, ou rire davantage dans sa vie, c'est quand même un combat de tous les jours?
Moi, c'est vraiment ce que je pense, c'est ce que demandait Julia. Moi, je crois vraiment qu'il faut s'efforcer de rire. Le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé ou un sourire corrélé à une blague. C'est pour ça que je suis devenue prof de yoga du rire. C'était pour encourager et puis pour montrer comment on fait pour voir le monde avec des lunettes roses, comment on trouve des facéties partout. Et c'est d'ailleurs ça que je relaie beaucoup sur Mamouze.
C'est votre compte Instagram. Il faut expliquer que ça a explosé pendant le confinement. Ouais. C'est quoi, à votre avis, c'est quoi? C'est la preuve qu'on avait besoin à ce moment-là de légèreté, de positivité dans cette période compliquée? Vous l'expliquez comment?
Ouais, en fait, j'étais la première surprise, mais oui, si le Covid a eu une chose positive, c'est ça, c'est de redonner ses lettres de noblesse au rire. Et c'est ce que je me suis rendu compte de ça, de l'engouement, de glousser, ça fait du bien. Et le rire, c'est du sérieux, c'est vraiment ça. Et je dois dire que moi, je me réjouis, puisque longtemps, dans les rédactions un peu classiques, t'as pas intérêt à rigoler ou à avoir de l'humour. Ça veut dire que t'es pas un journaliste efficace. C'est très bizarre. Comme en France, on cloisonnait ça. Et aujourd'hui, j'adore l'idée que, au contraire, dans la communication, on s'en sert. On voit toutes les blagues créées par Buzzman. Le rire est vraiment s'immisce partout. Et c'est ça que moi, je prône vraiment.
Jessica, vous animez le podcast et le blog The Serial Mother. Donc la maternité pour vous, c'est une source d'inspiration pour faire rire, ou alors est-ce que c'est genre plutôt une nécessité? C'est-à-dire quand on a un enfant, voire plusieurs enfants, parce que vous, c'est le cas, hein, je crois, vous avez multiplié le truc, hein, quatre fois.
C'est ça. Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que on peut être très très vite débordé, dépassé par la maternité, parce qu'on est fatigué, parce qu'on dort pas, parce qu'on se pose plein de questions. Et à la fois, il y a des moments magiques et très drôles avec les enfants, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient ensuite ados. Et donc moi, j'ai pris le pari il y a quelques années de me dire, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais, voilà, l'idée c'est d'avoir, comme dans tout d'ailleurs, du recul sur soi et de mettre de l'humour partout, même quand ça va mal, même quand on est crevé, même quand on a dormi mal ou pas, même quand on a une super cicatrice de césarienne qui nous fait mal, ou que voilà, il faut rigoler parce que sinon la vie est trop pénible en fait.
Merci à vous deux, on va continuer à la rendre moins pénible cette vie. On vient de faire une petite intro sur notre sujet du jour, mais on va poursuivre dans quelques instants. Comment faire de l'humour un fil conducteur dans nos vies? C'est la voie que l'on veut vous montrer ce matin, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1 et ce matin, on vous dévoile quelques-uns des secrets de l'humour. Existe-t-il un gène du rire? Un enfant drôle peut-il devenir un adulte pas franchement rigolo? Humour, sexe et séduction, est-ce que ça va ensemble? On va faire le point avec nos deux invités, Jessica Zimmermann et Julie Mamoumani, toutes les deux journalistes et co-auteurs du livre « Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour » paru chez Le Duc. Alors, je vous pose la question, a-t-on une idée, donc pour le gène, vous nous avez dit, mais a priori, il n'y a pas de gène du rire, mais est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'on peut se transmettre ça par le biais de l'éducation? Est-ce que si je fais des blagues très tôt à mon gosse, potentiellement, il va en faire? Parce que Mélanie, par exemple, excusez, je peux dire
oui,
Mélanie, bah, elle est super drôle, ouais. Sa fille n'a aucun humour.
Elle a 5 ans, la pauvre, on l'embrasse, mais elle change, humour. Elle est en train de changer. Mais c'est vrai qu'elle dit, moi, j'ai pas d'humour, elle le dit comme ça, j'aime pas rire.
Ouais, mais ça, c'est pour. C'est frontal.
Je sais pas, à 5 ans déjà.
Non, mais c'est vrai qu'elle a pas d'humour, la gosse.
Elle a pas d'humour.
Bah, c'est des façons de s'affirmer, en effet. Oui, de... voilà. Surtout si la mère
mais elle a
ça.
Plein d'autres qualités, hein, donc c'est pas grave, on y travaille. Mais
ça peut changer?
Oui, ça peut changer, sûr. oui, parce que comme on l'a dit, donc c'est pas génétique, ça c'est une bonne nouvelle, et oui, il faut éduquer ses enfants à l'humour, donc rien n'est perdu pour.
Peut-être que je suis trop lourde justement pour dans l'éducation et que c'est.
Peut-être juste qu'elle trouve que c'est pas drôle, quoi.
Ouais. Ma mère, elle m'a élevée tous les soirs avant de dormir, elle me disait au lieu de me dire à demain, elle me disait à deux pieds.
Alors c'est lui, voilà.
Mais ça m'a inspirée.
Ouais, d'ailleurs, elle nous la sort toutes les semaines celle-là et on n'ose pas lui dire depuis 2 ans que elle n'est pas très drôle.
On adore l'humour de répétition.
Non, mais c'est vrai que on pense que l'humour est devenu une valeur cardinale. C'est-à-dire qu'avant on disait à nos enfants et on leur dit toujours évidemment travaille bien, sois sage, dis bonjour, sois poli, etc. Fais du sport, je ne sais quoi. Et maintenant, en plus de ça, on ose dire sois drôle, prends du recul sur toi, fais des blagues, parce qu'on l'a vu, on le sait, l'humour non seulement sauve, mais l'humour fait la différence entre un enfant A et un enfant B, un ado A et un enfant B, et évidemment
Attendez,
un adulte aussi.
Vous parlez des ados, mais Mélanie aussi, décidément, je raconte
la vie. Mes enfants, non mais oh.
Elle a un ado.
Il est drôle, mais par contre, il trouve que moi, je
voilà,
suis pas drôle.
C'est ça que je voulais
parler. Apparemment, je suis la gênance incarnée.
Mais
là, depuis peu, hein, c'est depuis la puberté, je crois.
Mais il vous dit que vous avez un humour de vieille. Est-ce que c'est normal que les ados pensent qu'on a des humours de vieux et de vieilles?
Mais oui, là aussi, c'est le pédopsy qui nous a dit ça, qui dit que c'est normal. Alors là, il est complètement normal. Oui. Rassurez-vous,
Mélanie. Non, je ne suis pas
Mélanie.
Très inquiète. Hein, je me dis que ça passera.
Non, mais c'est l'affirmation là aussi contre. Et alors, nous, pour aider les vieilles que nous sommes, on a fait un dico, un lexique.
Alors
des mots.
Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, tout le monde entend parler de Kouakoubé, machin, on n'en peut plus.
Ça, c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle et surtout, c'est désespérant. Quoi.
Ouais. Et on tombe tout le temps
du coup, dans notre livre, puisque nous, on est aussi des mamans d'ados, on a fait un lexique de mots avec des définitions pour expliquer ce que ça veut dire justement quoi malaisant, couper, j'avoue, ils avouent tout.
Claqué au sol,
j'ai le seum, je suis piqué, t'es mal à go.
Oui, mais vous savez quoi, moi je me suis renseignée sur tous ces termes-là et j'essaye de les employer avec lui, mais quand ça
mais
sort
non.
de ma bouche, c'est jamais drôle.
Ah oui, ouais,
c'est ça. Forcément. Et alors comment on fait pour travailler l'humour avec un ado? Vous avez des trucs?
Ça, c'est le plus dur, c'est la période la plus dure, c'est ce qu'il dit le pédopsy. Presque il faut laisser parce que, en fait, vous voyez Beavis and Butthead, là qui était sur MTV, comme ça, vraiment. Ils sont incompréhensibles, ils ne se plaisent qu'à eux-mêmes.
Vous ne croyez pas qu'il faut les laisser entre eux rire?
C'est ça.
Entre eux, ils rient beaucoup. Hein.
Ouais. C'est ça, je pense qu'il faut leur lâcher la grappe.
Ouais. On les reprend vers 18 ans, là, quand ça va mieux.
Quoi. Ils sont un peu plus civilisés.
Mais tout de même, il y a des choses universelles qui nous font rire tout le temps, et à mon avis, ados, enfants ou parents. Par exemple, voir quelqu'un tomber. Vous parlez du coup Saint-Péter aussi. Ça, c'est des choses. Ça a traversé les générations.
Ouais,
comment
et,
vous l'expliquez?
Et ça, c'est vraiment. On sait avec Bernard Werber, on avait enquêté sur qu'est-ce qui faisait le plus rire au monde. Eh bien, c'est le prout. Voilà.
C'est drôle.
On adore le prout.
Moi, j'ai même écrit un livre alors pour les petits qui s'appelle Pipi, caca, prout. Bon, évidemment, c'est sur la propreté, mais on m'a dit, oh, mais ce titre est ridicule. Et en fait, ils sont morts de rire. Donc, le prout marche à 2 ans, marche à 18 ans. Et un coussin péteur sous les fesses de Mélanie, ça fait rire tout le monde. Quoi.
Ça, on s'acharne un peu sur moi dans cette émission, j'ai l'impression.
C'est vrai.
Pourquoi on a l'impression que quand on devient adulte, justement, on doit mettre un peu l'humour de côté, je pense notamment au monde professionnel. Parce que, et puis même soi-même, on se restreint un peu parfois. On se dit, oh là là, faut que, si je suis trop drôle, je ne serai pas prise au sérieux.
Vous
quoi.
Avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit, que en tant que journaliste, ce n'est pas bienvenu dans certains. Certaines rédactions de faire preuve d'humour.
Non, en fait, ou en tout cas, avant, c'est vrai. Moi, je vois, bah, je suis toujours en train de me marrer à gorge déployée, tout ça. Et je voyais bien que je n'étais pas la considérée comme la sérieuse. Je ne pouvais pas être une enquêtrice si je me marre. Alors qu'au contraire, moi, je suis sûre que c'est l'inverse. C'est un très bon lien social. On crée une relation très, très vite avec son témoin. Et en plus, moi, je pense que c'est complètement faux d'imaginer qu'il ne faut pas se servir du rire. Au contraire, on le sait, hein, maintenant, les employeurs demandent des gens qui sont drôles. Non, c'est vraiment un préjugé complètement faux, quoi.
Ouais, parce qu'on se dit, les gens qui rient sont un petit peu idiots. Je pense qu'il y a encore
oui, on a
un
peur
peu
aussi
cette
de
image.
Qu'on pense qu'on est immature, parce qu'il y a ça
vous
aussi.
Vous l'avez vécu,
alors, ça aussi. Ce sont les enfants qui rient,
hein,
et puis quand on est grand...
On vous l'a dit, ça.
Bah oui, et moi je trouve que non, c'est pas un manque d'immaturité. Au contraire, je trouve que c'est une grande sagesse que de savoir rire de tout.
En fait, c'est très joli. On a appris qu'un enfant rigolait 400 fois par jour, quand nous, on ne rigole plus qu'une dizaine de fois, et encore. C'est quand on est plutôt bien luné. Et c'est un peu ce que disait Alain Chabat, qui dessine encore aujourd'hui, puisqu'au début, il voulait être illustrateur dans sa vie. Et il dit, mais les gens arrêtent de dessiner à 6 ans, à 7 ans. Pourquoi on s'arrête? Ce serait un peu la même chose avec le rire. Je ne vois pas pourquoi on s'arrête de rire. Et nous, c'est tout ce qu'on prône, c'est garder son âme d'enfant, c'est regarder les dessins des nuages et se dire, oh, ça, c'est un dinosaure, ça, c'est je ne sais pas qui. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime faire sur Mamou, c'est... continuer voilà à cultiver ça, cet œil un peu distordu ou voilà qui permet de voir la vie beaucoup plus en rose quoi.
Et dans le livre, vous avez interviewé la philosophe Marie Robert. Elle dit que connaître la forme d'humour de quelqu'un, c'est peut-être la meilleure façon d'accéder à son identité. Ça veut dire que notre humour en dit beaucoup sur nous-mêmes. Vous avez des exemples, enfin je sais pas, ceux qui pratiquent plutôt l'humour noir, l'humour potache, Jessica.
Moi je suis évidemment d'accord avec tout ce que dit Marie Robert. je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand c'est un peu « dis-moi de quoi tu ris, je te dirai qui tu es ». Et on voit bien autour de nous qu'il y a des gens qui ont un rire un peu plus second degré, d'autres qui rient que des proutes, d'autres qui vont rire des blagues racistes, misogynes, et tout de suite on se dit « non, ça c'est... enfin, » en tout cas, me concernant, ça c'est pas pour moi. Donc oui, le rire, c'est pas juste ouvrir la bouche et sortir un son, c'est un indicateur de qui on est. Socialement, c'est très intéressant de savoir de quoi on rit. On rit tous pas des mêmes choses, heureusement d'ailleurs, mais il y a des films qui vont faire rire certains, des émissions de télé qui vont faire rire d'autres, des livres, etc. Et c'est en effet un indicateur assez intéressant.
À demain, à deux pieds.
Regardez, ça fait rire tout le monde à part vous, Mélanie. Merci à toutes les deux. On vous retrouve dans un très court instant. On part à la rencontre des grandes questions autour de l'humour aujourd'hui. Nos invités du jour en sont convaincus, et nous aussi. L'humour, c'est comme l'air, c'est nécessaire. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 11h30 et on met l'humour à l'honneur sur Europe 1. Pour en parler, nous sommes toujours avec Julie Mamoumani et Jessica Zimmermann, toutes deux journalistes et co-autrices du livre « Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour » paru chez Le Duc. Alors, est-ce que pour vous, amour, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais amour doit forcément rimer avec humour, c'est indissociable? Si oui, en quoi? Expliquez-nous, Jessica.
Moi, alors par exemple, oui, je préfère un mec drôle et moins beau que Brad Pitt.
Peut-être qu'il est très drôle.
Je pense qu'il est super drôle.
Ok, mauvais exemple.
S'il est drôle et très beau, alors là, c'est, alors, drôle. Là, c'est... le
jackpot. Non, évidemment. Alors moi, ça fait 27 ans que je suis avec mon mari.
Allez, dis-le que tu dis que c'est le mec le plus drôle du monde.
C'est le mec le plus drôle du monde.
Ah,
et
mince,
c'est pour
je pensais
ça.
Que c'était le mien. C'est...
Ah, peut-être.
Ouais.
C'est ton ami, le mec, du coup.
Mais moi, tout le monde sait que c'est le mien.
Non, mais évidemment, l'amour sur le long terme, c'est quelque chose de pas tous les jours facile. Et si on n'a pas une petite pointe, voire une grosse dose d'humour dans le quotidien, on s'ennuie sec.
Vous riez tous les jours avec votre amoureux ?
Ouais, on rit tous les jours, mais alors vraiment...
Mais à quel propos, par exemple ?
Je ne peux pas vous dire, de tout, de rien, de nous-mêmes. Déjà, en premier lieu, d'une connerie, des enfants, du chien même. Même le chien nous fait rire.
Il est génial, leur chien.
Le chien est génial.
C'est peut-être ça le secret, si on n'a pas un mari drôle.
Adopte
peut-être
un chien.
Oui, adopte un chien ou des amis, j'y pensais. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut aussi tomber amoureux ou amoureux de quelqu'un qui n'est pas drôle, ça arrive ou pas spécialement. Est-ce que vous pensez qu'il faut savoir s'entourer de gens drôles pour traverser les épreuves de la vie? Est-ce que
c'est essentiel. Et d'ailleurs, on a interviewé Alain Toledano, qui est le directeur de l'Institut Raphaël, formidable hôpital qui s'occupe des gens qui ont le cancer. Et quand on l'a interviewé, il a dit non, mais il a balayé les bienfaits du rire en une seconde en disant non, mais les filles, évidemment. Et d'ailleurs, il dit qu'une femme qui est accompagnée de copines drôles va évidemment mieux s'en sortir qu'une personne qui est seule et pas accompagnée. Enfin, c'est évident,
c'est
en fait.
J'ai l'impression quand même, Jessica, qu'en plus, pour vous, la pratique de l'humour, c'est vraiment mettre les injonctions qu'on entend à longueur de journée un petit peu à bonne distance. Vous trouvez justement qu'on se prend trop au sérieux ou pas?
Oui. Voilà, c'est tout. Non, oui, évidemment. Alors déjà, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Manger du gluten, boire de l'alcool et baiser le premier soir », qui est un peu lent. qui est un livre drôle, un petit peu, qui tord le cou à toutes ces injonctions qu'on voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où tout le monde doit être beau, avoir des enfants bilingues qui ont 6 mois, un chien formidable, un mari qui fait l'amour comme Rocco Siffredi, des amis avec qui on se fasse jamais, un corps de rêve, faire le lever du soleil.
Justement non.
Et donc du coup, on ne se réveille pas toutes à 5h du matin pour faire du yoga en buvant un jus de céleri. Enfin, peut-être que Julia se réveille.
Non, c'est pour animer les matins.
Et donc, en fait, je trouve qu'on est très... il y a des injonctions dans notre société. Il faut être toujours au top. Et
l'humour permet de désacraliser,
de prendre de la distance. Et évidemment, moi, je suis la première à me foutre de moi quand je grossis, quand machin. Je le dis, j'ai pas de problème avec ça. Et ça m'aide.
Tu te moques même de Noël sur les réseaux sociaux.
J'avais été interviewée par le... sur la pression de Noël, et moi j'ai fait un truc plutôt léger et drôle, et là je me suis reçu des messages de haine
de la team premier degré.
Qu'est-ce qu'on en fait de cette team premier degré, on les fréquente, comment on fait?
On les laisse un peu s'énerver. Ce qui est génial, moi, ce que je préfère le plus sur Mamou, c'est les gens qui répondent en disant « Oh là là, encore la team premier degré
». Ah, c'est vrai.
Et ça, c'est ce qu'il y a de plus sympa.
Et vous pratiquez le yoga du rire. Expliquez-nous en quoi ça consiste et en quoi ça peut-être aider la team premier degré qui nous écoute.
Alors ça, c'est assez génial. C'est quand j'avais fait mon premier bouquin et que je me retrouvais dans des conférences, il y avait des gens qui me disaient à la fin « Mais vous êtes marrante, vous partez du principe que tout le monde sait rire. Mais moi, rien ne me fait rire, comme ta fille. » Mélanie, ou comment on fait? Et en enquêtant, je me suis rendu compte qu'il y avait 6500 clubs du rire en France. Mais qu'est-ce que c'est que ces clubs du rire? Et en fait, c'est des endroits où on pratique ce fameux yoga du rire. Et c'est l'idée que comme le cerveau ne fait pas cette fameuse différence entre un rire forcé et un rire corrélé à une blague, il faut entraîner son cerveau à rire vraiment, comme ça, de rien, par des gestes. Mm-hmm. Donc au début, c'est un peu gênance maximale. Mais une fois que tu as commencé et que tu le fais, c'est assez fabuleux parce que c'est la discipline du lâcher-prise par excellence. Ça t'amène 15 minutes de rire par jour et donc tu as ta fameuse dose D pour dopamine, O pour ocytocine, S sérotonine et E endorphine, qui est vraiment l'anxiolytique naturel. Et donc, plus tu ris, plus tu vas rire et plus tu vas voir la vie du bon côté. Et c'est prouvé scientifiquement.
Est-ce que sourire, ça marche ou il faut rire?
Sourire, ça marche, mais non, parce qu'en fait, il faut vraiment les zygomatiques, quoi. Il faut vraiment ce truc où t'as mal à la mâchoire. Tu sais, ça te fait maigrir. Enfin, c'est fou.
Ah, dit le truc magique, ça fait maigrir. Ouais, pourtant, moi, je me suis bien poilée. Regardez dans quel état je suis.
Une minute de yoga du rire égale 3 minutes de cardio. C'est dingue, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est aussi le rire social, contagieux, collectif.
Et est-ce qu'en vieillissant, c'est quelque chose qui peut s'user, le rire, justement? Comment ça se...
Ou au contraire, s'affirmer, parce que certaines vieilles personnes n'ont plus aucun filtre. Moi, c'est exactement ça, cette poésie des personnes âgées. Mon grand-père a eu Alzheimer et c'était hyper joli parce que tout ce qu'il disait était poétique et c'est tellement gracieux. En fait, quand on n'a plus de surmoi, quand on n'a plus de filtre tout d'un coup, moi je trouve que... Et en fait, c'est ça, il faut regarder du côté de l'enfance ou regarder du côté de la vieillesse et s'en inspirer.
Et du côté des filtres, il faut aussi peut-être enlever quelques filtres Instagram et comme ça aussi dans nos vies, non? Pour se mettre à rigoler, non?
Moi, je suis d'accord. Se mettre à nu, c'est la meilleure façon aussi de rencontrer l'autre. C'est ça aussi qu'il faut faire pour rire.
Eh bien, merci à toutes les deux. On s'est bien poilé, non pour, merci pour cet entretien bien sympathique sur le rire. Les bienfaits de l'humour, on va suivre tous vos conseils.
On a le droit d'utiliser cette ringarde.
C'est un peu la gênance quand même. Hein.
Humour de vieille. Merci encore les filles. Mélanie, on passe à quoi à présent?
Alors Julia, on va accueillir un autre duo très joyeux. Ce sont les bienfaiteurs d'Europe 1 ce matin au micro. Il y aura Edouard Dutour qui va nous présenter des applis pour préserver notre santé sexuelle. Alors ça aussi, c'est important. Et puis Alexia Cornu va nous expliquer comment chouchouter notre périnée, surtout quand on rigole beaucoup et qu'on vieillit, ça peut servir. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. Nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. Alexia Cornu d'abord, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Alors dans votre chronique tout à l'heure, on va parler d'un problème dont on parle peu, car c'est assez tabou, mais qui concerne plus de monde qu'on ne le croit.
Exactement, on va parler de prolapsus. Donc ce n'est pas un gros mot, ça concerne la descente d'organes.
Ouh là là, loin de moi cette idée. Merci Alexia, ce sera à vous dans quelques instants. Mais juste après avoir écouté les conseils bien-être d'Edouard Dutour, finalement on n'est pas si loin du sujet. Bonjour, ouais. Vous allez nous
bonjour
aider à préserver notre,
à tous.
Notre santé sexuelle hein, ce
tout
matin.
Tout à fait,
Edouard.
Je vais dire des mots fous, je vais dire vulve à la radio. Ça y est,
ouh,
c'est fait.
Bah voilà,
ça va mieux, non mais je plaisante, mais c'est tout à fait sérieux. En fait, il s'agit par exemple de monitorer ses cycles menstruels, de mieux vivre les symptômes de son endométriose ou de sa ménopause. Il s'agit de savoir comment peut-être évidemment diminuer les douleurs vulvaires ou suivre sa grossesse. Tout ça avec une appli sur son téléphone. Et ça permet d'accompagner les femmes en ligne, accompagner leur santé sexuelle et reproductive. Ça s'appelle tout simplement comme secteur la femtech, de féminin et de technologie.
Un mot
un peu barbare,
de,
voilà, c'est les applications de sur votre téléphone qui vous permettent de gérer votre santé sexuelle. Vous connaissez la Femtech, les filles?
Donc, oui, oui, moi j'en ai plusieurs sur mon téléphone, peut-être que vous allez nous en donner d'autres. Donc ça veut dire que la technologie s'est vraiment saisie de cet univers de la santé sexuelle au féminin. En
tout à fait, pour deux raisons. Pourquoi la technologie s'est mise à s'intéresser à la sexualité? Pour deux raisons très, très simples, c'est que déjà, ça répond à des besoins intimes et ça pallie à des lacunes qu'on ne retrouve pas et qu'on ne trouve pas forcément dans un parcours de soins traditionnel. Et puis aussi, il y a des sujets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le périnée, qui sont encore tabous, par exemple comme l'endométriose, qui est longtemps resté très tabou, la ménopause aussi, pas facile à aborder avec un médecin, et peut-être dans un premier abord ou dans un abord complémentaire, on est plus à l'aise avec une appli et avec ses fonctionnalités différentes qu'on va aborder ensemble.
Mais on est d'accord que les applis sur un smartphone, ça ne peut pas remplacer non plus un suivi médical, et ça ne peut même pas pallier la pénurie des gynécologues en France, non, façon Uber de la santé?
Non, évidemment, alors il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre et de venir effectivement avec une appli comme on commande une pizza de régler sa santé sexuelle, mais en fait c'est tout à fait complémentaire. Un outil informatique n'a jamais guéri quelqu'un, mais on peut mixer une médecine traditionnelle et une médecine digitale. Quand j'appelle digitale, c'est évidemment avec son téléphone. C'est très clair aussi en ce moment déjà sur, dans la santé. Il y a des centres de santé qui mixent un accueil en présentiel, puis après vous avez un suivi en digital avec votre téléphone qui facilite le dialogue entre le corps médical et les patients. Donc il faut prendre la technologie comme un complément, comme un plus, et non pas comme un ennemi de la médecine traditionnelle. C'est des objets connectés, qui sont d'ailleurs souvent créés par des professionnels de la santé, donc c'est plutôt assez rassurant.
Combien ça coûte toutes ces applis là de santé sexuelle? Est-ce que c'est payant d'ailleurs?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux volets possibles, il y a deux fonctionnalités possibles. Il y en a un qui est souvent basique et gratuit, et un souvent qui est personnalisé et payant. La gratuité n'est pas forcément un bon signe, surtout si on ne veut pas de pub, ni qu'on ne veut pas que notre données soit vendue. Donc si c'est payant, c'est plutôt bon signe. Alors en gros, ça coûte peut-être une dizaine d'euros pour des fonctions plus poussées, et peut-être jusqu'à une centaine d'euros si vous avez vraiment un suivi personnalisé.
Oui.
C'est que si via votre appli, vous avez un suivi personnalisé avec un praticien, là, c'est évidemment payant et c'est des frais qui ne sont pas négligeables et loin d'être abordables et accessibles à tous.
À tous. Et ces applis, elles bénéficient d'une caution médicale ou pas?
Alors pour l'instant, c'est un peu la jungle. Il n'existe pas vraiment de régulation officielle. Et pour s'assurer du sérieux d'une appli, mon vieux voir s'il y a un comité scientifique, s'il y a une rigueur scientifique. Et puis on peut regarder comme ça le comité médical qui supervise ou pas l'appli en question.
Alors si on a besoin d'une appli, Edouard, le magazine Elle a fait une sélection pour nous. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples?
Oui, c'est dans Elle qui sort aujourd'hui, avec la fille de Laetitia Casta en couverture. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Eh bien, il y a une petite sélection qui est sympa. Je vais poser des questions, je vais répondre moi-même avec le nom de l'application en question. C'est là où je dis des phrases folles. Je n'arrive pas à jouir. Ah. Eh bien, je télécharge Climax qui propose de vous guider vers l'orgasme. On peut en rire un peu maintenant.
Oui.
J'ai mal au niveau de la vulve, je l'ai dit. vous pouvez télécharger Vulvae qui accompagne et si vous souffrez d'inconfort ou de douleur vulvaire chronique. Je veux préparer, je me tourne vers ma voisine, mon périnée avant l'accouchement. Il y a une appli qui s'appelle Imagina qui propose un dispositif connecté qui masse le périnée.
Ah, là, et il va falloir mettre un objet avec.
Je veux tirer mon lait en toute discrétion, ça m'arrive souvent. Eh bien, il y a Perifit, un tire-lait portable sans filet connecté. Et j'ai une baisse de libido. Ça m'arrive moins, j'espère. On peut consulter un ou un sexologue en ligne sur l'application Mia.co. Voilà, vous trouvez
et
tout
Julia,
ça.
Elle voulait dire j'ai des bouffées de chaleur.
Oh
vous n'avez pas
là, un truc des bouffées de chaleur.
Alors, les bouffées de chaleur, c'est Atana. Voilà, Atana qui a développé un appareil connecté inspiré de la cryothérapie pour vous rafraîchir la culotte et la tête.
Oh, j'en ai pas besoin. Je vous
merci beaucoup, Edouard. Merci pour ces conseils. On passe maintenant à. On reste un peu dans le même domaine, mais un sujet donc tabou, mais important pour la santé des femmes. Le prolapsus, également connu sous le terme de descente d'organes, pour en parler. Nous avons donc avec nous Alexia Cornu, notre coach holistique, experte en physiologie féminine. Donc, un sujet majeur ce matin.
Un sujet majeur, oui, parce que ça concerne 50% des femmes. Et on l'oublie très souvent, on n'est pas au courant. Ce qui est plus que les fuites urinaires qui concernent une femme sur trois.
Ah oui. Et ça concerne pour moi, en fait.
Eh bien, justement, détrompez-vous.
Des femmes que les hommes.
Exactement. Alors, pas le prolapsus directement, mais en fait, on va parler dans cette chronique de gestion des pressions abdominales. Et là, les hommes sont également concernés, puisqu'au final, le prolapsus, c'est un petit peu comme une hernie au niveau du périnée. Mm-hmm. Et vous pouvez également avoir des hernies abdominales et donc les solutions
à surveiller. Qu'est-ce qui est réellement le prolapsus? Est-ce que vous pouvez nous le réexpliquer? Enfin, quels sont les organes qui sont concernés?
Oui, exactement. Donc, le prolapsus, vous l'avez compris, donc descente d'organes. Il s'agit pas de tous les viscères qui vont s'échapper de la culotte, mais vraiment de la vessie, de l'utérus et du rectum qui sont directement concernés et qui vont avoir tendance du coup à passer à travers le périnée.
Oh là là ! Et à quel moment on peut être concerné par ce risque ? J'ai eu l'image, c'est horrible !
Alors c'est pas si dramatique que ça, hein, vous inquiétez pas.
Ah ouais ?
Déjà, vous pouvez être concerné à n'importe quel âge, ça concerne pas uniquement les personnes âgées, ça peut concerner les athlètes qui ont énormément de pression intra-abdominale, mais également les femmes en postpartum ou à la ménopause également.
Et alors justement, comment on peut, prévenir le prolapsus et éviter une descente d'organes, même si vous dites que c'est pas grave, mais quand même.
Alors c'est pas grave, mais il faut quand même le traiter. Alors vous allez ressentir une sorte de lourdeur, un poids au niveau de l'entrejambe, cet inconfort.
Non, jamais, mais c'est parce que je suis journaliste médicale. J'ai pas dit que j'avais testé tout ce dont on parlait.
Je sais pas si j'ai envie d'avoir une lourdeur au niveau du...
Mais vous savez, quand vous venez d'accoucher, on l'a tout eu, non? Enfin, je pense. Non,
non, perso, non.
Femmes sont beaucoup plus concernées, exactement. Il faut savoir que ces organes génitaux, ils sont suspendus par des ligaments qui peuvent se détendre. Et c'est ça qui va entraîner le prolapsus. Au niveau de la prévention, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être la gestion de ces pressions intra-abdominales. Et pour ça, on va commencer par faire un test.
Avec plaisir.
Tout le monde.
Edouard, jouez le jeu. Hein,
oui, bien sûr.
Jouez le jeu, nos auditeurs aussi. Vous allez garder votre ventre relâché, mais vous allez tousser, essayer d'observer ce qui se passe au niveau de votre ventre. Si vous faites cet exercice-là et que vous regardez, par exemple, dans un miroir et que vous observez ce qui se passe au niveau du ventre, en fait, ça vient pousser au niveau du plancher pelvien.
Et ça, c'est normal?
Alors, non. C'est naturel, mais sauf qu'on peut l'éviter. Parce qu'en fait, le fait que ça vienne pousser, ça vient du coup engendrer des risques de prolapsus. Donc pour ça, c'est l'exercice du zip. Donc, vous allez venir, imaginez que vous avez une fermeture éclair qui part du pubis jusqu'au nombril, vous engagez, et là, revenez tousser.
Ça bouge plus.
Et là, en fait, les pressions, du coup, ne viennent pas. Exactement, les abdos viennent protéger. Et donc, vous n'avez pas ces pressions, du coup, qui viennent sur le périnée.
Mais c'est intéressant, mais vous avez également dit que le périnée n'était pas forcément la cause principale du prolapsus. Alors, c'est quoi la cause principale?
Exactement. Donc, le périnée, c'est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Hein. Mais avant ça, en fait, ça va être ces pressions intra-abdominales. Et donc, la première cause de prolapsus, c'est la constipation, par exemple.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, et parce que, du coup, quand on est constipé, on va avoir tendance à pousser. Bah oui. Il ne faut surtout pas pousser quand on va à la selle. Et donc, pour vous donner des petites astuces pour éviter ça, ça va être de remonter vos pieds sur la poubelle, par exemple, des toilettes, ou mettre un petit marchepied. Si vous avez beaucoup de constipation, de le faire traiter rapidement, d'aller voir un médecin pour éviter ça. Et puis, pareil, pour tout ce qui est pression, du coup, au niveau des abdominaux, la toux, éternuement, ou le fait de porter des charges lourdes, et faites l'exercice du zip systématiquement.
Alors, l'exercice du zip, j'allais dire, c'est juste quand on sent qu'on va tousser ou qu'on va éternuer. Je veux dire, on fait pas ça toute la journée, parce que j'imagine que, je sais pas, penser toute la journée à ce zip, ça doit être fatigant.
Alors,
quand même, juste psychologiquement, si je devais toujours y penser, c'est compliqué, quoi.
En fait, c'est y penser quand vous allez avoir des pressions au niveau du périnée. Donc, des pressions intra-abdominales fortes. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous pensez surtout à votre posture. Essayez de garder le
tenir droit, déjà, c'est quelque chose d'important.
Se tenir droit, ça prévient, parce que ça engage naturellement vos muscles du périnée et du transverse, les abdos profonds. Juste de se tenir droite.
On a fait une émission sur le rire, là.
Mais quand on rit, c'est bon pour le périnée, ça? Ou alors il faut faire le zip?
Alors, si
surtout qu'on a dit aux gens, riez plus encore, c'est dangereux, ça.
Bah, en fait, de rire, ça ne pose aucun problème, à condition que, du coup, vous avez une bonne posture. Parce que là, vos muscles profonds sont engagés. Et donc, ce qui va être important, ça va être quand vous sentez que ça va avoir tendance à pousser, donc vous avez des quintes de toux, quand vous éternuez ou quand vous riez très très fort.
C'est là qu'on fait le zip.
Là, on fait le zip, mais qu'à ce moment-là, pas besoin de le faire toute la journée.
D'accord. Okay. Bon ben ça y est, je vous parle et je zippe. Merci Alexia, merci également et vous Edouard, on se retrouve très prochainement dans l'émission.
Je suis content d'avoir deux garçons qui arrivent
dans
le studio.
Enfin, Romain des Arbres. Mais vous en avez un, Romain également de Périnée. Merci à vous auditeurs d'Europe 1 d'avoir été à l'écoute de Bienfait pour vous aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a fait autant de bien qu'à nous. On va remettre le couvert demain Mélanie et on aura quoi au programme?
Eh bien autrefois synonyme de grand âge, devenir grand-parent est presque devenu tendance de nos jours. Qu'est-ce qu'être grand-mère en 2023? Ce sera notre sujet demain. Comment ont-elles réinventé ce rôle essentiel à l'heure du tout numérique et même des familles recomposées? On verra tout ça demain.
Mais maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia.
Europe 1 Midi arrive. Quel est le programme?
Dans Europe 1 Midi, on va rendre hommage aux trois policiers tués par un chauffard dimanche matin dernier à Villeneuve-d'Ascq. On va aller à Roubaix. Le président de la République vient d'arriver. Et puis, on va réécouter la lettre poignante, s'il en est, de la sœur de Samuel Paty. Cette lettre a été lue par Michaël Paty, c'est la sœur de Samuel Paty, ce matin à 8h15 avec Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle met les autorités de ce pays face à leurs responsabilités. L'État n'a pas protégé son frère. Vous allez écouter cette lettre lue. Et puis on sera également avec Paul Marion. Paul Marion qui est le président de l'association des Amis de Samuel Paty. Vous appelez le 01 80 20 39 21. On va parler de ces deux sujets, notamment, bien sûr, dans Europe 1 Midi. À tout de suite.
Merci beaucoup Romain. À tout de suite et bonne journée sur Europe 1.